Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Margot Leridon et Rosalie Suc, mais aussi Hélène Lefrançois, Bertie Bourdon, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Adèle Caglar et Pascal Langlois. Deuxième temps de notre série consacrée à la santé, après avoir étudié hier les crises des systèmes hospitaliers et avant d'aborder demain les procès intentés aux laboratoires pharmaceutiques et puis jeudi la médecine traditionnelle, intéressons-nous aujourd'hui aux migrations internationales de médecins, soignants, migrateurs, entre fuite des cerveaux et cercles vertueux. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Ce n'est pas pour devenir riche que je pars travailler à l'étranger. Ici, je n'ai pas pu payer ma voiture ni m'acheter un appartement. Le problème, c'est qu'il est tout simplement impossible pour les jeunes médecins de gagner sa vie. Et je parle ici juste de la vie au quotidien.
Je pense que quand on a fait 12 années d'études, on mérite mieux que de contempler un bloc opératoire vide sans aucun moyen. D'autant que les demandes de la population sont énormes. Donc se sentir inutile, inactif, moi ça m'allait pas, donc je suis parti.
Je suis déçu. Je n'y avais jamais pensé, mais cette année, pour la première fois, j'ai commencé à me renseigner sur les pays vers lesquels je pourrais émigrer. Si je pars, ce serait pour un poste avec la même spécialité. Mais si je n'ai vraiment pas le choix et que je dois partir comme médecin généraliste, alors oui, je le ferai.
Tamás Dénès, médecin chirurgien hongrois qui évoque ce qui le motive pour partir exercer à l'étranger. Djamil Hamis, chirurgien en pédiatrie au centre hospitalier de Créteil, qui a quitté l'Algérie pour venir travailler en France. Et puis enfin, Anderson Cepeda, médecin à l'hôpital militaire de Caracas, donc au Venezuela. Des témoignages recueillis respectivement par l'AFP, France 2, mais aussi RFI. Ils quittent leur pays pour obtenir de meilleurs salaires, mais aussi de meilleures conditions de travail. Alors que les pénuries de médecins constituent un problème global, les professionnels de la santé s'inscrivent depuis plusieurs années dans les dynamiques internationales en fonction des besoins des pays et de leurs propres aspirations. En France, par exemple, près de 30 000 praticiens étaient diplômés de l'étranger en 2017. Mais l'Hexagone n'est pas qu'un pays d'accueil. Certains médecins français décident également d'émigrer, notamment du côté du Canada ou des États-Unis. Un rêve américain qui continue d'ailleurs de fonctionner dans le monde entier, puisque 55% des médecins qui quittent leur pays à l'échelle mondiale choisissent précisément cette destination. Alors comment les pays accueillants des médecins organisent-ils leur politique migratoire pour pallier leur manque d'effectifs? Quels sont les effets de ces mouvements internationaux sur l'économie et la santé des populations dans les pays d'accueil mais aussi dans les pays de départ? Et puis plus près des hommes et des femmes, qu'est-ce qui pousse les médecins à émigrer? La réalité de leur exercice à l'étranger est-elle à la hauteur de leurs attentes, de leurs aspirations? Quelles sont les modalités de leur intégration, ici en France notamment, pour les communautaires mais aussi pour ceux qui ont obtenu des diplômes hors de l'Union européenne? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité deux personnes. D'abord, ici en plateau à Paris, Christelle Fifaten en dessous, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes, vous, sociologue, vous êtes intéressé évidemment à ces questions de profession médicale et de migration. Vous avez notamment réalisé un travail sur les médecins d'origine d'Afrique de l'Ouest venus travailler ici en France, on en parlera. À nos côtés, pas si loin, hein, Yasser Moulan dans les studios de RFO à La Réunion. Bonjour Yasser Moulan.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous également ce matin. Vous êtes, vous, économiste. Vous êtes ingénieur d'études au Centre d'économie et de management de l'océan Indien à l'Université de La Réunion. Et puis vous êtes chercheur associé à l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, l'IRDEST. Il y a assez peu, Yasser Moulan, je vais commencer avec vous si vous le permettez, assez peu de données globales sur la migration internationale de médecins. Mais il y a quand même un travail de compilation qui a été effectué il y a quelques années par deux universitaires qui s'appellent Alok Bhargava et Frédéric Dauquier, qui sont respectivement de l'Université du Maryland et de celle de Louvain, un travail sur la période 91-2004. Et quand on regarde d'abord ce que j'ai fait, moi, la proportion de médecins étrangers dans les pays de l'OCDE, on voit tout de suite qu'on a des niveaux assez élevés. Plus de 20% pour des pays comme l'Australie, plus de 30% pour des pays comme la Nouvelle-Zélande ou le Royaume-Uni, à peu près 25% pour les États-Unis. Donc première chose qu'on peut remarquer, Yasser Moulan, c'est que la profession de médecin, elle est particulièrement propice à l'exil. Yasser Moulan.
Si on regarde notamment les chiffres, je crois que l'OCDE aussi a fait une enquête, en tout cas a fait la même compilation à ce moment-là. Je crois que les chiffres de l'OCDE, c'est 17% d'émigration, en tout cas de médecins formés dans un pays qui n'est pas le pays dans lequel ils exercent. Donc effectivement, les médecins sont une profession qui est relativement mobile. Si on compare par rapport à la migration internationale, on est à 3% de la population à peu près pour les migrants dans le monde. Donc on voit bien que les médecins, c'est une profession qui migre plus, qui est plus facilement mobile dans la mesure où aussi ce sont des personnes qualifiées et ça rejoint tout le débat qu'il y a sur la fuite des cerveaux, etc. etc.
Qu'on va avoir évidemment ensemble. Christelle Fifatten en dessous, quand je poursuis sur cette étude en particulier, que je regarde le classement des pays qui exportent, si je puis dire, le plus de médecins, toujours sur cette période 91-2004, là en particulier c'est pour 2004, les pays dans l'ordre, l'Inde d'abord, les Philippines ensuite, puis viennent le Canada, le Royaume-Uni, la France est 25e. Que vous inspire là, cette, en première impression, ce classement ? Inde, Philippines, et puis Canada, Royaume-Uni. Pour vous dire les choses, je comprends assez bien l'Inde et les Philippines, parce qu'au fond, on peut se dire que compte tenu peut-être du développement économique de ces pays, eh bien, les médecins cherchent à...
Ont tendance à partir.
C'est peut-être moins évident pour le Canada et le Royaume-Uni, par exemple.
Oui, alors il faut aussi considérer le fait qu'on est dans des... Le travail médical constitue un marché qui s'est mondialisé. Donc, quand, même en étant dans un pays dit développé, on n'a pas les perspectives professionnelles espérées, ben on décide de migrer. En termes d'opportunités, s'il vaut mieux, vu les problèmes que vous avez dû décrire, par exemple au Royaume-Uni hier, s'il vaut mieux en tant qu'Anglais partir au Canada pour mieux gagner sa vie, pour avoir accès à des ressources qu'on n'a pas sur place, mais on le fait. Donc ce n'est pas surprenant que, parce que le travail médical constitue effectivement un véritable marché sur lequel ceux qui ont la possibilité de se déplacer circulent.
Yasser Moulan, le niveau de développement des pays ne suffit pas à expliquer cette propension à exporter des médecins. Il y a d'autres enjeux.
En fait, si vous regardez bien dans ce classement, vous voyez que les deux ou trois gros pays de ce classement sont aussi des pays très peuplés. Donc l'Inde, je crois que le Pakistan aussi est pas loin quelque part.
Sixième, ouais, tout à fait, sixième.
Voilà, vous avez les Philippines, etc. Donc ce sont tout simplement des pays très peuplés. Donc qui dit très peuplé dit aussi pays qui forment beaucoup de médecins.
Donc il faut regarder les taux finalement d'émigration. Et alors précisément quand je regarde Yasser Moulan les taux d'émigration, je remarque que en premier j'ai la Dominique, en deux la Grenade et en trois Sainte-Lucie. Les Caraïbes, qu'est-ce qui fait que justement les médecins immigrent ailleurs? C'est l'attraction opérée par les États-Unis voisins qui font que les médecins de ces trois pays-là partent?
Tout à fait. Juste pour une explication très statistique, si vous regardez juste le nombre de médecins qui est envoyé des Caraïbes rapporté à l'ensemble des médecins qui restent aux Caraïbes, on va dire ça comme ça, vous voyez que forcément ce sont des petites îles, donc le nombre de médecins qui restent dans ces pays sont relativement faibles, et donc du coup on a des taux qui avoisinent pratiquement des fois les 90%, voire même plus. Là, c'est juste vraiment un effet taille, j'ai envie de dire. Cet effet taille fait qu'on a des taux beaucoup plus importants dans les petites îles que dans les gros pays. Si on rapporte la même chose sur l'Inde, on a quelque chose absolument tout petit parce qu'on a je ne sais pas combien de millions de médecins qui exercent en Inde, vous voyez. Donc les 46 000 ou les 88 000, les nouveaux chiffres disent que c'est proche de 90 000, les 90 000 médecins médecins qui sont partis indiens, si on les rapporte à l'ensemble de la population de médecins en Inde, ça fait vraiment très très peu. Donc ça, c'est la première explication pour les Caraïbes. La deuxième explication, effectivement, c'est la proximité avec le marché américain. Notamment, aux États-Unis, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la profession de médecin est devenue très 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 compétitive. Et donc, il y a un certain nombre de médecins, en tout cas de nationaux américains, on va dire ça comme ça, qui veulent se former à la médecine, mais qui n'ont pas suffisamment de place ou qui n'arrivent pas à intégrer les écoles de médecine aux États-Unis. Et donc, ce qui se fait, c'est que les Caraïbes accueillent ce qu'on appelle des écoles de offshore, qui forment essentiellement pour le marché américain. Et donc, ces écoles offshore basées aux Caraïbes accueillent des natifs américains qui viennent se former pour ensuite repartir aux États-Unis exercer la médecine.
Une question, Yasser Mboulon, et puis je passe la parole à Christelle Fivatin en dessous qui voulait intervenir. Mais ces écoles, c'est simplement le fruit d'un marché totalement mondialisé de la santé qui fait que voilà, des écoles s'installent et point. Ou est-ce que c'est le résultat d'une politique américaine parfaitement claire avec tout ça et qui au fond a compris qu'il était plus intéressant économiquement d'externaliser la formation de ces médecins plutôt que de les former soi-même sur le territoire, ce qui coûte assez cher évidemment. Yasser Mboulon, et ensuite je vous donne la parole. Yasser Mboulon.
Alors là, il faudrait un politologue pour répondre à cette question, mais je dirais qu'il y a un peu des deux, c'est-à-dire que les États-Unis, en gros, lorsque ils décident, en gros, de former un certain nombre de médecins, est souvent contraint par effectivement des contraintes financières. Donc on a un quota de médecins qui sont formés par État fédéral, on va dire ça comme ça, notamment dans les écoles de médecine américaines par État, et donc lorsque ce quota est atteint, on va dire, il n'y a plus moyen d'avoir suffisamment de place pour exercer ou bien pour entrer en école de médecine. C'est un peu la même chose, on va dire, dans une forme un peu différente que le numerus clausus qu'on avait jusqu'à récemment en France. Donc en fait, le nombre de places dépend notamment de la capacité des écoles et notamment des hôpitaux à former le nombre de médecins. Et donc si cette contrainte est limitée, va falloir trouver une façon d'aller exercer la médecine d'une autre façon. Donc voilà, et donc les gens s'expatrient, on va dire, pour exercer la médecine.
Christelle Fifaten, en dessous, vous vouliez réagir, et puis ensuite peut-être on évoquera le cas de la France, qui est un peu particulier, parce que quand on regarde le taux de médecins étrangers qui exercent ici,
l'un des plus bas,
c'est l'un des plus bas de l'OCDE, c'est à peu près 8%. C'est un des plus bas, il va falloir essayer de comprendre pourquoi.
Sur la question de la formation médicale, il faut, en complément de ce que vient de dire Yasser, il faut tenir compte aussi du fait que effectivement un véritable marché avec l'internationalisation de l'enseignement qui s'accompagne d'une véritable privatisation de l'enseignement médical autant pendant longtemps comme la profession médicale, la gestion de ce personnel-là est associée en général au système de santé. Donc il y a ce principe de limite ou de il faut contenir le nombre de médecins formés quoi par les États parce que c'est une question de budgétaire, c'est une question économique fondamentalement. Et donc le phénomène parallèlement, parce qu'il y a beaucoup de candidats, beaucoup de personnes qui veulent se former à la médecine, s'est développé donc un véritable marché de l'enseignement médical en parallèle de l'enseignement supérieur généralement. Dans ces pays-là, on voit le même phénomène qui commence à se développer dans les pays du Maghreb, en Arabie Saoudite. Beaucoup d'Africains vont d'ailleurs se former au Maroc, par exemple, en Tunisie, etc. Et il y a même des écoles privées qui sont en train de s'installer, marocaines, qui sont en train de s'installer en Afrique de l'Ouest, ou des gens qui vont en Afrique du Sud. Et un phénomène assez incroyable qui se passe aussi, c'est dans les formations, ce que moi j'ai remarqué en Afrique, dans les formations publiques, dites publiques de médecine, on réserve toujours un quota, 20% pour des gens, qui, en fait on privatise une partie de la formation publique. Parce que il y a ce marché-là dont même les États voudraient profiter pour financer d'une certaine manière leur propre formation.
Je continue avec vous, Christelle Fettenansou, et ensuite je reviens vers vous, Yasser Moulon. Cette place singulière, je le disais, de la France, singulière au regard des autres pays de l'OCDE, avec au 1er janvier 2013 seulement 8% des inscrits au tableau du Conseil national de l'ordre des médecins qui détenaient un diplôme obtenu précisément à l'étranger. Comment se fait-il que la France soit aussi hermétique à l'idée de voir des médecins étrangers exercer chez elle?
Alors, historiquement, c'est le rapport des Français, je le dis, à l'étranger, en fait. Parce qu'on a déjà, au tournant, dans les années 30, on a tout un mouvement très agressif de la profession. Alors, on est dans une profession extrêmement réglementée, très corporatiste, qui a pu, dans la plupart des pays du monde, imposer en fait le monopole national. Et c'est le cas, c'est quelque chose auquel la profession médicale est très attachée. Moi, je parle de nationalité disqualifiante, dans le sens où, quand on est étranger ou à diplôme étranger, il est extrêmement compliqué de venir en France. Et donc, il y a cette histoire-là des juifs, réfugiés juifs qui arrivent en France dans les années 30, les années 20, 30 même, qui sont extrêmement... agressés parce qu'on ne veut pas d'eux en France. Donc à l'époque, il y a un vrai mouvement d'enfermement de la profession qui s'est faite, et par la suite, ben c'est resté, ça s'est conservé. Et il y a cette histoire-là dont il faut tenir compte, et il faut tenir compte aussi du fait que plus que les autres pays, plus que les États-Unis par exemple, la santé, le système de santé, on a une protection sociale assez performante, assez favorable en fait. Et il faut, on ne peut pas laisser la population médicale, la démographie médicale se démultiplier quoi. Et justement, c'est le sens du numerus clausus français. C'est, il ne faut pas qu'il y ait trop de médecins. Donc, il y a une seule école médicale française qui est privée. Donc en France, toute la formation médicale, c'est l'État qui s'en charge.
Même si c'est beaucoup, c'est en train de changer énormément, et notamment avec des formations dans d'autres États membres de l'Union, Roumanie, en Italie, avec des médecins qui reviennent et qui complètent leur formation. On verra ça peut-être tout à l'heure, parce qu'effectivement, c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de choses qui changent, même si, comme vous le dites, effectivement, historiquement, c'est peut-être un domaine extrêmement sclérosé d'une certaine manière. Voilà. Yasser Moulon, regardons un peu les effets de tout cela, de ces migrations de médecins sur les pays de départ. Évidemment, la première analyse qu'on peut faire, c'est une catastrophe, c'est une fuite des cerveaux que doivent payer extrêmement cher les pays de départ. C'est vrai en partie, mais il se trouve qu'il y a aussi peut-être des effets qu'on appelle compensatoires, en tout cas des effets bénéfiques pour les 10 pays, qu'on a tendance parfois à occulter. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Yasser Moulon, quels sont précisément ces effets bénéfiques, compensatoires, liés à ces migrations de médecins pour les pays de départ, Yasser Moulon ?
Avant de répondre à votre question directement, je voudrais juste revenir sur le cas de la France. En fait, effectivement, on voit que si on prend... La question qui se pose dans le cas de la France, en tout cas, c'est qu'est-ce qu'on considère comme un médecin étranger ? Est-ce qu'on considère un médecin étranger, un médecin qui a été formé ailleurs et qui exerce la médecine en France ? C'est les chiffres que vous avez cités, hein, entre autres les 8% de médecins, c'est ça. Ou est-ce qu'on considère comme médecin étranger un médecin qui est né ailleurs, qui a fait ses études de médecine en France et qui exerce en France aujourd'hui ? Et en fait,
les 8% auxquels on faisait référence à Serre Moulin, soyons d'accord, c'est des gens qui sont inscrits donc au Conseil national de l'ordre des médecins, et qui ont obtenu leur diplôme à l'étranger. Donc c'est la première partie, la première catégorie que vous évoquiez.
Exactement. Je vous laisse poursuivre. Et en fait, la deuxième partie, donc les médecins qui eux sont nés à l'étranger, mais qui ont fait toute leur scolarité, si j'ose dire, ou toute leur étude de médecine en France, eux ne sont dans cette catégorisation ne sont pas considérés comme étrangers. En revanche, ils représentent à peu près les deux tiers des des autres médecins que l'on peut considérer comme étrangers en France. C'est-à-dire que pour les médecins strictement formés, on est à 15 000 individus à peu près formés à l'étranger, à diplôme étranger. En revanche, les médecins de nationalité étrangère mais qui ont un diplôme en France, on est à peu près à 30 000. Donc on est, vous voyez, en fait, on a pratiquement les deux tiers. Donc historiquement parlant, j'ai envie de vous dire, la France a préféré former des personnes qui étaient de nationalité étrangère. Et c'est aussi pour ça que ça explique, entre autres, qu'on ait un faible taux, on va dire, d'immigration de médecins, parce que jusqu'à présent, ces médecins étrangers étaient formés en France. Donc c'est une des clarifications que je voulais apporter. Concernant l'impact sur le pays de départ, effectivement, on a toujours l'impression que lorsqu'un médecin émigre pour un pays africain notamment, les effets sont délétères sur le pays de départ. Effectivement, on a justement les deux auteurs que vous citiez tout à l'heure, Alok Bargava et Frédéric Dauquier, ils ont fait notamment une enquête une étude plutôt sur l'impact de l'émigration de médecins, notamment sur les taux de VIH à l'époque quand il y avait une forte expansion de l'épidémie en Afrique. Et ils s'aperçoivent effectivement que, par exemple, un doublement du taux d'émigration de médecins dans ces pays était associé à 20% de hausse des décès dus au VIH. Donc c'était relativement important. Et par ailleurs, il y a un autre cercle vicieux. Vu que l'épidémie gagnait en ampleur, il y a eu une détérioration de l'état de santé des gens et une détérioration des conditions de travail de ces médecins. Et du coup, les médecins avaient du mal à exercer dans des conditions sanitaires suffisantes. Et donc, beaucoup d'entre eux ont décidé de partir aussi. Donc, en fait, l'épidémie a incité beaucoup de médecins à partir et inversement. Effectivement, on a cet effet négatif qui apparaît notamment dans un cas bien particulier là, qui est le cas du VIH. En revanche, quand on a fait des études beaucoup plus globales, pas uniquement sur les taux d'épidémie, mais aussi sur le taux de mortalité classique ou le taux de mortalité infantile, ces choses-là, on voit que l'émigration de médecins n'a pas beaucoup d'impact direct sur l'amélioration ou bien sur la détérioration plutôt de l'état de santé des populations. Ce qu'on s'aperçoit, et c'est peut-être ça qui est très important dans l'étude qu'on a faite avec Alok Bargava, c'est que l'effet direct n'est pas très probant. En revanche, l'effet indirect, c'est-à-dire l'effet via la densité de population, la densité de médecins qui restent dans le pays, ça c'est beaucoup plus important. Et c'est peut-être cet effet-là qu'il faudrait investiguer davantage. Je m'explique. Lorsqu'on a un médecin qui émigre d'un pays africain vers un pays de l'OCDE, ce qui est important, c'est combien de médecins restent derrière. Si on est sur un stock de médecins qui est relativement faible, effectivement, ce taux d'émigration, cette émigration va avoir des effets dommageables. En revanche, si le nombre de médecins qui restent derrière est suffisamment important, dans ce cas-là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup d'effets
j'entends bien du point de vue de la théorie, mais en pratique, en réalité, les médecins formés en Afrique, pour malheureusement la majorité, ils partent précisément.
Quand on regarde les taux d'émigration, c'est notamment l'étude qu'on est en train de mener, notamment sur une période plus récente de 2004 à 2014, on s'aperçoit que les taux d'émigration des médecins en Afrique subsaharienne avant étaient à 19% et elles passent aujourd'hui en 2014 à 14%. Donc on a une baisse de taux d'émigration des médecins africains dans le monde. Et par ailleurs, j'ai envie de vous dire, cette émigration de médecins a aussi potentiellement des effets bénéfiques, mais que pour l'instant la littérature a du mal à investiguer. Les effets bénéfiques potentiels, c'est le fait que une partie de ces médecins renvoient notamment les envois de fonds des migrants dans les pays d'origine. Donc ça aussi, c'est un effet migratoire classique de l'impact, notamment l'ensemble de ces fonds représentait trois fois l'aide au développement, je crois, en 2010. Donc c'est des c'est des montants colossaux.
Alors on entend l'analyse Yasser Moulan et puis ensuite je vais vous faire le travail sur les pays d'accueil, voir si quels sont les effets. Mais d'abord Christelle Fifaten en dessous sur les effets directs et indirects de cette fuite des cerveaux, en tout cas de cette immigration de médecins et peut-être en particulier en Afrique.
De mon point de vue concernant l'Afrique, il faut peut-être considérer les époques et puis les pays émetteurs. On peut pas tout considérer, prendre un bloc et tout. Enfin, je suis désolée, hein, Yasser, c'est votre boulot de travailler sur les flux, les gros paquets, mais.
Et vous regardez les petits paquets, les cas par cas.
Exactement.
Alors regardons cas par cas. Vous êtes sociologue.
Oui, et du coup, typiquement, la question, cette période-là, considérée les années 90. Les émigrations de médecins qui partaient d'Afrique du Sud, qui étaient des milliers, qui émigraient d'un coup au Royaume-Uni, il fallait considérer que c'était souvent des médecins blancs qui avaient peur de ce qui allait se passer après à la fin de l'apartheid et qui ont migré, quoi. Donc oui, on peut, pour chaque pays, en fait, en considérant des époques différentes, on se rend compte qu'il y a des causes à la migration qui ne sont pas elles se ressemblent, hein, c'est qu'ils n'ont pas accès à la profession comme ils voudraient, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas les carrières qu'ils voudraient, et puis il faut tenir compte aussi des spécialités. En France, par exemple, les médecins qui venaient, oui, ils se formaient. Mais quasiment à partir des années 70, quand les universités ont été construites en Afrique, ils venaient la plupart du temps se spécialiser en France. Donc ils étaient médecins là-bas et c'est parce que justement il n'y avait pas la spécialité qu'ils voulaient acquérir. Mmh. Donc ils partaient pour cette raison-là. Et évidemment, est-ce que ça a un lien ? En termes de démographie, oui, on se retrouve avec des populations. Si on considère le nombre de médecins par rapport à la population, oui, il n'y en a pas assez. C'est des déserts médicaux géants, quoi. L'Afrique est un désert médical en grandeur nature. Mais est-ce que, pour autant, si ces médecins étaient restés, leurs compétences auraient été adaptées aux besoins locaux ? C'est la question aussi. Parce que quand ils partent se former, moi c'est une réflexion que j'essaye de mener, quand ils partent se former, parce que je suis beaucoup, j'interroge les carrières, les trajectoires, les carrières, comment on se construit une carrière, et quand ils partent et qu'ils disent « je vais me former », évidemment il y a une envie, la formation est une démarche, l'acquisition de compétences n'est qu'une stratégie pour exercer son métier. Donc, pour exercer son métier.
Oui, d'ailleurs, vous dites que souvent dans les discours, quand on vous explique les trajectoires de ces personnes, quand ces personnes-là vous expliquent leur trajectoire, oui, bien sûr, peut-être apparaît dans le discours la question d'accession à des meilleures conditions de vie, mais la première chose, c'est d'abord l'idée d'aller se former, c'est-à-dire c'est dans une perspective de formation formalisante, professionnalisante.
Professionnalisante, et quand on est un bon professionnel, on a la spécialité qu'on veut et souvent cette spécialité on veut l'adapter au marché sur lequel on veut s'insérer, et ben cette profession là permet d'avoir accès à de meilleures conditions de vie, de mieux gagner sa vie.
Alors, regardons maintenant dans les pays d'accueil, Yasser Moulan, et regardons les effets de cette arrivée de médecins sur le territoire. Évidemment, on imagine que pour les pays qui accueillent, l'intérêt, c'est d'améliorer l'accès aux soins. Mais est-ce que, effectivement, globalement, et puis on va regarder aussi au cas par cas, ça améliore les choses? Si on regarde, par exemple, les États-Unis, vous le disiez tout à l'heure en début d'émission, qui sont le premier pays de destination de ces médecins qui migrent, est-ce que effectivement l'arrivée de médecins étrangers améliore aux États-Unis l'accès aux soins ? Yasser Moulan.
Alors, j'ai envie de vous dire, je suis justement en train de travailler sur un projet de recherche avec l'IRDES sur ces questions, notamment en France. Notamment, est-ce que l'arrivée des médecins étrangers, en tout cas formés à l'étranger, permet de résoudre ces problèmes de disparité, de densité de médecins sur le territoire. Donc, pour l'instant, je pense qu'il est un peu trop tôt pour moi de donner des résultats là-dessus. En revanche, ce qu'on s'aperçoit. c'est que effectivement, avec notamment pour le cas des États-Unis, avec à peu près, je crois, 35% de médecins étrangers qui exercent aux États-Unis aujourd'hui. Les États-Unis ne peuvent pas s'en passer de médecins étrangers. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si demain matin on rapatrie l'ensemble de ces médecins, on s'apercevrait qu'il y ait des effets absolument négatifs sur la délivrance des soins aux États-Unis typiquement. Après le cas des États-Unis est un peu différent, c'est-à-dire que les États-Unis c'est un très très grand pays étalé sur une très grande superficie, et du coup en fait à la fois ils ont besoin d'avoir beaucoup de médecins, donc en termes de quantité, mais également encore plus de médecins pour être répartis de façon à peu près égale, on va dire, sur le territoire, ce qui est à peu près le cas aussi dans les autres pays de l'OCDE, hein. On a à la fois l'effet quantitatif simple, c'est-à-dire que potentiellement si on en manque, on en recrute à l'étranger. En revanche, ce qui est beaucoup plus important et ce qu'on essaye particulièrement de résoudre via l'émigration de médecins, c'est cette répartition inégale des médecins sur le territoire. Et notamment, beaucoup de pays de l'OCDE ont mis en place des mécanismes, à la fois potentiellement lorsqu'ils signent un contrat, c'est un contrat qui est signé avec un État fédéral qui est plutôt rural et qui oblige les médecins à travailler pendant une certaine période dans des zones dites de déserts médicaux. C'est notamment le cas en Australie pour ça. Donc il y a pas mal de dispositifs qui est mis en place pour inciter ces médecins, voire même des compensations financières, pour exercer davantage dans les zones rurales, ouais, plutôt que dans les zones urbaines.
Christelle Fifatin, en dessous, si on fait la même hypothèse que celle formulée par Yasser Moulan concernant les médecins qui ont eu des diplômes à l'étranger aux États-Unis, en France, on aurait quoi? Un effondrement, notamment des services des urgences, où on sait qu'ils sont particulièrement présents?
Oui, en tant que faisant fonction d'interne. Mais la situation est en train d'évoluer, hein, parce qu'on est en pleine, on est dans une...
Il va falloir que vous nous expliquiez, hein, faisant fonction d'interne.
Alors, faisant fonction d'interne, en fait, c'est un statut qui a été créé en France, justement, parce que à un moment, dans les années 70, notamment à cause de des pénuries de médecins qui ont été créés avec l'établissement du numerus clausus, ça a été mis en place justement parce qu'il y avait des postes internes qui n'étaient pas dotés dans des hôpitaux ou des centres, des établissements de santé. Et donc, c'est un statut qui a été mis en place pour recruter des médecins qui n'étaient pas internes à des postes d'internes qui n'avaient pas été dotés, qui n'avaient pas été choisis par des étudiants, enfin des internes, à la fin de leur, enfin, au cours de leur formation. Donc ça a été mis en place, mais il s'est trouvé que ça a commencé par être les hôpitaux ont commencé à recruter massivement justement des médecins étrangers à diplôme étranger, c'est surtout ça qui compte. Ils ont
ce qu'on appelle les PADU, les praticiens à diplôme hors Union européenne.
Ils ont commencé à les recruter massivement, et là on se retrouve dans une situation où quand on considère cette situation des PADU, on a l'impression que c'est le PADU est un faisant fonction d'interne par définition, alors que non, c'est vraiment un statut qui a été une fonction qui existe au sein de l'hôpital pour compenser déjà des pénuries de médecins.
Oui, parce qu'en réalité, ces médecins extra-communautaires n'ont pas légalement le droit d'exercer en France. S'ils le font, c'est à la faveur d'une dérogation qui est très régulièrement reconduite.
Qui est très régulièrement reconduite, une dérogation aussi liée à leurs conditions d'étudiants. Parce qu'ils sont en formation, et quand ils arrivent en France, ces médecins-là, souvent, et en tout cas pour rester en France et pouvoir exercer, certains pendant des années se sont même inscrits. On est dans une formation qui pour laquelle la formation continue est importante, mais ils s'inscrivaient à des DU, à des diplômes, enfin pour continuer à conserver le statut d'étudiant, qui leur permettait dans le cadre de leur formation, de leur formation pratique au sein de l'hôpital, la dérogation fonctionnait dans ce sens-là.
Christelle Fifatin, en dessous, qu'est-ce qui se passerait si toutes ces personnes qui ont obtenu des diplômes à l'étranger, extra-communautaires, partaient?
Mais on se retrouverait avec les pourcentages en moins, parce qu'on a le stock qui s'amenuisent hein, de Padoue, donc de praticiens à diplôme hors Union européenne qui se réduit parce que politiquement, on va peut-être y revenir. L'idée, c'est de restreindre ce flux-là, de le couper même. Et du coup, on compense en faisant appel aux médecins roumains, donc communautaires.
Roumains d'ailleurs, ou français, qui vont faire la première partie de leurs études en Roumanie ou en Italie, puis qui ensuite reviennent pour leur troisième cycle.
Dans le détail, je ne me souviens pas, mais c'est quand même marginal, ces médecins-là. C'est vraiment des personnes qui ont été formées, des Roumains souvent formés en Roumanie, qui sont venus formés en Roumanie ou en France d'ailleurs. Parce que pendant longtemps, avant l'entrée de ces pays-là en 2007 dans l'Union, ils étaient considérés comme hors Padoue aussi, quoi.
Yasser Boulan, je vais peut-être vous faire réagir parce qu'évidemment vous n'êtes pas avec nous en plateau, donc je ne vois pas. Vous avez peut-être envie, peut-être d'ajouter un mot avant de poursuivre avec Christelle Fatten en dessous. Yasser Boulan.
Oui, depuis
Saint-Denis de la Réunion.
Merci. Concernant les médecins roumains, effectivement, c'est une des nouvelles tendances qu'on voit dans la nouvelle base de données qu'on est en train de constituer jusqu'aux années 2014. On s'aperçoit qu'il y a notamment une migration intra-européenne qui émerge. Je m'explique. On s'est aperçu que notamment que la Pologne en 2004 est entrée dans l'Union européenne. Et la Roumanie est entrée en 2007 dans l'Union européenne. À la suite de ces entrées successives, on a la directive européenne qui a reconnu automatiquement les diplômes de l'ensemble des médecins de la zone euro. Et on s'est aperçu qu'à partir de ces années-là, donc à partir de 2004 et 2007, on voit les médecins polonais et les médecins roumains qui entrent notamment dans les anciens pays européens. On va dire ça comme ça. Et donc on a effectivement des taux d'émigration de ces pays qui augmentent de façon drastique, notamment pour le cas de la Roumanie. De mémoire, je crois qu'on passe de 14% en 2010 à pratiquement le double en 2014.
On est à plus de 600% en 2017, je crois, d'inscription à l'ordre des médecins.
Oui, c'est fort possible. Moi, je suis pas sûr du flux, moi, je suis sûr du stock. Effectivement, sur le flux, ça devrait être encore plus important. Donc voilà. Pareil pour la Pologne, on a des taux qui augmentent de façon drastique. Donc, effectivement, cette migration intra-européenne fait aussi que les médecins, en tout cas, les pays qui accueillent davantage ces médecins sont des médecins européens maintenant. Donc, c'est-à-dire la France, le Royaume-Uni, la Suède, tous ces pays-là reçoivent beaucoup de médecins donc de ces pays et donc deviennent aussi des zones d'attractivité ou des zones des pays d'attraction, on va dire, de ces migrations, et qui fait aujourd'hui passer l'Europe des 15 parmi la deuxième zone mondiale qui est la plus prisée, on va dire, des médecins.
Oui, donc ça veut dire en réalité que la France aussi est en train de commencer à externaliser la formation de ses médecins. Alors évidemment, l'externaliser au sein de l'Union européenne, mais c'est un mouvement
tout à fait
qui est maintenant très clairement enclenché. Vous évoquiez des chiffres tout à l'heure, j'en ai un autre à vous proposer. Le nombre de médecins qui se présentent à l'examen classant national pour donc le troisième cycle, ils étaient 142 en 2012, ils sont 621 l'année dernière. Donc on voit absolument que ça explose. Encore un mot, Yasser Moulane, si vous le permettez, et puis ensuite on accueillera une nouvelle invitée dans quelques instants par téléphone, sur la question de savoir ce que peuvent faire les instances supranationales. Il y a quand même une organisation qui s'appelle l'OMS, qui a un tout petit peu en charge la question de la mission, de l'amélioration de la santé globale au niveau de la planète. Est-ce que l'OMS fait quelque chose, peut faire quelque chose pour essayer de réguler, de surveiller, de contrôler ces flux de médecins migrants ?
Alors l'OMS, en 2010, l'OMS a adopté ce qu'on appelle un code de bonne pratique qui a été signé par l'ensemble des États membres de l'OMS et dans lequel ce code de bonne pratique stipule qu'il faut prendre en compte notamment lorsqu'on recrute un médecin, on doit prendre en compte notamment la situation de ces pays d'origine en termes de pénurie de médecins, en termes d'impact potentiel sur le système système de santé. Donc c'est un code, on va dire, éthique et moral qui a été signé entre l'ensemble des États membres de l'OMS. Après, l'OMS n'a pas fait d'études d'évaluation derrière.
Ouais, d'accord.
Donc voilà, donc en fait, pour l'instant, on a juste un comité d'experts qui a été réuni en 2015 de mémoire, et dans lequel ce comité d'experts, alors ça ne concerne pas que les médecins, ça concerne l'ensemble des professions médicales, et notamment, peut-être que la profession qui était le plus visée par ce code, c'était pas les médecins, c'était plutôt les infirmiers ou les infirmières. Donc, en 2015, il y a un comité d'experts qui s'est réuni à l'OMS, et ce comité d'experts, visiblement, l'étude que j'ai vue là-dessus disait que certains pays avaient réussi à tirer profit de ce code de bonne pratique, et ils citaient notamment le cas des Philippines, qui avaient réussi notamment à se spécialiser ou à structurer le système de formation autour des infirmières, et notamment pour l'export.
Alors on se doute évidemment qu'il y a des gagnants et des perdants dans cette affaire-là. Le tout reste de savoir si on peut jouer ou pas là-dessus. Christelle Fifadane, en dessous.
Oui, donc il faut tenir compte de la souveraineté des pays qui sont maîtres dans la gestion de...
Et des gens aussi.
Oui, et d'une part, et d'autre part, bah, de l'autonomie des gens qui...
Quand les médecins décident de partir ils partent. Quand ils décident de revenir ou pas, ils le font.
Voilà, c'est comme disait en introduction un médecin, bah, j'ai décidé de partir, j'ai commencé à chercher où je pouvais aller. Donc en fait, on est dans ce mouvement-là où c'est limite ceux qui ont plus de ressources, de capital migratoire, on pourrait le dire comme ça. Comment identifier le pays qui adopte la bonne politique, qui vont en profiter.
Et parmi ces médecins en particulier, en quelques mots, très rapidement, est-ce que il y a un désir de retour ou est-ce qu'il n'est pas si fort? Parce que vous dites que souvent la question du retour, enfin dans les discours, il y a une certaine amertume sur le pays d'origine.
Oui, oui, parce qu'on part et puis on s'oblige à vivre l'immigration parce qu'on peut pas rentrer, on n'arrive pas à... Et puis la coupure, le départ, l'exil, ça coupe du pays. C'est très difficile d'y retourner, en fait.
Oui, c'est d'ailleurs ce que vous raconte notamment, par exemple, un médecin béninois de Cotonou qui vous raconte qu'il a ouvert sa clinique, mais c'est en gros une vraie déception à la clé. On est avec vous, Christelle Fifadane en dessous, et Yasser Moulan, duplex depuis Saint-Denis de la Réunion. On est dans cette série consacrée à la santé. Aujourd'hui, on parle des soignants migrateurs. On va s'intéresser à ce qu'on appelle le tourisme médical, mais je mets beaucoup de guillemets.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Parce qu'on disait tout à l'heure, l'Inde, c'est l'un des principaux pays de départ pour l'immigration internationale de médecins, mais c'est devenu une véritable plateforme pour accueillir des patients qui viennent d'un peu partout dans le monde pour s'y faire soigner.
L'industrie du tourisme médical en Inde est en plein essor. Vous prenez un billet d'avion, vous venez faire tous les soins ici, tout ça pour 10% du prix que cela vous aurait coûté normalement. Même si vous voyagez en classe affaires ou en première classe, c'est quand même une sacrée économie. Vous venez ici en Inde pour des raisons médicales, ce n'est pas une mauvaise affaire. Vous prenez des vacances en même temps et vous êtes complètement pris en charge. Donc pourquoi ne pas le faire?
Voilà, extrait d'un documentaire intitulé « Le tourisme médical en Inde » de Rahul Kalvapal. On va retrouver tout de suite par téléphone Virginie Chal. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence à l'université Jean Moulin, Lyon 3, une spécialiste de l'Inde et en particulier des inégalités de santé. D'abord, un premier mot, Virginie Chal, pour comprendre de quoi on parle. Le tourisme médical en Inde, ça représente quoi et dans quelle proportion ce marché, parce qu'il s'agit bien de marché, a-t-il augmenté ces dernières années? Qu'on ait un peu une idée globale, Virginie Chal.
Alors, bon, il n'y a pas de statistiques fiables sur ce sujet, mais ceci dit, toutes les estimations s'accordent sur un chiffre d'environ 450 000 patients internationaux qui chaque année viendraient se faire soigner en Inde. Donc c'est un premier point. Et là où il y a consensus également, c'est sur le nombre grandissant de ces patients étrangers qui viennent en Inde, puisqu'on estime qu'ils augmentent d'environ 20% par an. Donc un marché tout à fait dynamique. pour plusieurs raisons, donc pour le coût des soins qui sont prodigués, mais aussi parce que l'État indien est très actif dans ce domaine et met en place toute une série de mesures, de dispositifs pour justement encourager ce secteur.
On va revenir justement sur ces mesures, mais d'abord comprenons qui sont les patients qu'il y a derrière. Il y a plusieurs types de flux, si je puis dire. Il y a les patients qui viennent des pays les plus riches, des États-Unis, du Canada ou même d'Europe, et puis il y a aussi des patients qui viennent des pays, j'allais dire, du Sud, avec donc des migrations, des mobilités Sud-Sud. Il y a plusieurs types de patients là-dedans, hein.
Exactement. Donc, il y a une grande diversité des profils. Je vais commencer par ceux qui sont les moins nombreux, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui sont justement des patients qui appartiennent à des catégories sociales aisées, qui viennent des pays occidentaux. Donc, on pense aux Nord-Américains, par exemple, qui viennent en Inde pour avoir des soins moins chers. On pense aussi à certains patients britanniques qui viennent pour avoir accès à des soins plus rapides. On pense aussi à des patients des pays pétroliers qui viennent pour avoir accès à des soins qui ne sont pas disponibles chez eux. Donc là, hein, ça représente environ 10% seulement des patients qui arrivent en Inde. Et globalement, les 90% restants appartiennent à des catégories sociales moyennes, voire même tout à fait modestes. Mmh. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, il faut bien noter aussi qu'on a souvent l'idée de touristes médicaux, avec plein de guillemets, qui viennent de très loin, alors qu'en Inde, il faut bien noter que 90% des patients qui arrivent viennent de pays limitrophes. Donc d'abord, un recours de proximité et des classes sociales moyennes, voire même tout à fait modestes.
Alors, Virginie Schall, venons-en à ce qu'a fait le gouvernement indien pour précisément favoriser, accompagner le développement de ce tourisme médical.
Alors, il y a d'abord des mesures qui favorisent l'implantation de grands hôpitaux, donc qui favorisent les grands groupes hospitaliers privés et qui les aident par des subventions notamment et des allègements de taxes pour la mise en place de complexes hospitaliers. Donc ça, c'est un premier point. L'État aussi a mis en place ce qu'on appelle des visas médicaux, donc un visa qui est obtenu assez facilement par les patients qui ont besoin de ce visa pour venir se faire soigner.
Ça existe depuis une quinzaine d'années maintenant.
Et aujourd'hui, l'Inde délivre environ 100 000 visas médicaux par an. Donc, et c'est en constante augmentation. C'est un point. Et puis, depuis quelques années aussi, il y a un certain nombre d'acteurs de ce secteur du tourisme médical qui visent justement à attirer des patients. Et donc là, avec deux façons de faire, il y a d'abord des grands groupes hospitaliers privés qui implantent à l'étranger, et je pense notamment en Afrique subsaharienne, des hôpitaux, donc des annexes d'hôpitaux qui leur permettent à la fois de soigner sur place des patients et de les envoyer en Inde lorsque les plateaux techniques sont pas suffisants, par exemple. Il y a sur place des hôpitaux qui recrutent. Et puis aussi, les grands groupes hospitaliers privés, encore une fois, emploient ce que l'on appelle des intermédiaires ou des facilitateurs, des courtiers médicaux qui jouent le rôle, justement, qui ont pour mission de recruter des patients et de les accompagner ensuite dans leur démarche.
Parmi ces établissements privés, par exemple, on a Apollo's Hospital, qui est une chaîne d'hôpitaux qui a été fondée en 1983 et basée à Chennai, qui a été la première à recevoir l'accréditation internationale des soins de santé de la Joint Commission International américaine, qui permet à des Américains de s'y faire soigner. Alors, après tout, Virginie Schall, on pourrait se réjouir de voir que les acteurs privés tirent bénéfice de ce tourisme médical. On rajoute encore des guillemets comme à chaque fois. La question étant de savoir si tout cela ne se fait pas aussi aux dépens du service public de la santé indienne. Est-ce qu'on n'a pas là, avec le développement de ce tourisme médical, l'aggravation de cette santé à deux vitesses en Inde ?
C'est tout à fait clair, effectivement. Donc, à une échelle globale, il est vrai que cette activité participe à la croissance économique, une production de richesses, mais qui ne se matérialise pas par une amélioration des conditions de vie pour les populations, puisque de fait, elles sont toujours plus éloignées de l'offre de soins. Une offre de soins qui est animée par un double mouvement, à la fois un mouvement de métropolisation et de privatisation, donc des soins notamment les plus sophistiqués qui se concentrent essentiellement dans les plus grands centres urbains, alors même qu'une majorité de la population indienne continue de vivre dans les zones rurales, et puis effectivement une privatisation toujours plus importante du secteur de la santé, parce que d'une part les acteurs privés sont toujours plus nombreux, mais qu'en même temps il y a un désengagement progressif de l'État, et donc comme vous le disiez tout à fait justement, un accès aux soins pour la population qui est toujours plus difficile, et le tourisme médical contribue encore à cette contrainte.
Alors j'ai trouvé un chiffre, j'ai pas réussi à le croiser avec une autre source, donc il faut le prendre avec des pincettes, mais en 2014, les dépenses dans la santé publique en Inde auraient représenté 1,4% du PIB, alors que les dépenses dans la santé pour les acteurs privés, donc les investissements dans la santé privée, s'élevaient visiblement à 3,3% du PIB, c'est-à-dire plus du double. Une fois encore, je n'ai trouvé la source qu'à un seul endroit, donc j'ai pas pu le croiser, mais donc ça laisse très clairement apparaître combien finalement le gouvernement indien est en train de miser précisément sur le développement de cette santé, ces acteurs privés dans la santé. Encore une question. Peut-être pour revenir sur notre question originelle, Virginie Nichal, qui est celle des migrations. Dans quelle mesure est-ce que l'augmentation de ce tourisme médical en Inde favorise-t-il ou non le retour de personnel soignant indien? On le disait tout à l'heure, les Indiens, les médecins indiens ont été très nombreux à partir. C'est même le premier pays qui produit, qui forme des médecins et puis qui les exporte à l'étranger. Est-ce que ce développement-là, il participe d'une forme de retour de ces acteurs-là, de la médecine?
Alors oui, c'est ce qu'on observe depuis quelques années. Alors, il faut savoir que les retours restent pour autant inférieurs au départ. Hein. Encore aujourd'hui, c'est environ 1500 médecins indiens qui chaque année partent travailler ailleurs. Mais depuis quelques années, eh bien, on estime qu'entre 500 et 600 rentrent en Inde du fait justement des perspectives offertes par le tourisme médical, puisque désormais, eh bien, ils peuvent exercer dans des hôpitaux qui sont très bien équipés. Ils peuvent, eh bien, faire valoir leurs compétences, prétendre à des niveaux de salaire importants et à des conditions de vie et de travail relativement confortables. Donc effectivement, hein, depuis quelques années, en parallèle de l'expansion du tourisme médical, on voit un retour de ces médecins qui restent encore tout à fait modestes, mais quand même la dynamique
est là, on le voit. Ouais. Peut-être réaction d'abord à Saint-Denis de la Réunion avec Yasser Moulan et puis ensuite à Paris avec Christelle Fatten en dessous. Yasser Moulan.
Oui, j'ai envie de vous dire, oui, effectivement, ce côté tourisme médical peut être une formidable opportunité, effectivement, pour un retour de ces médecins dans leur pays d'origine, parce que, notamment...
Mais une catastrophe pour les populations locales. Hein.
En tout cas, un retour en Inde, hein, c'est ça que je...
Oui, bien sûr, mais en tout cas, la question de l'accès aux soins, visiblement, n'est pas tellement améliorée par le développement des acteurs privés qui sont directement liés à ce développement du tourisme médical.
D'autant plus que ce que nous on remarque, c'est que dans les pays où il y a deux vitesses dans le système de santé, on s'aperçoit que notamment le personnel de santé qui est employé dans les établissements publics ont un deuxième boulot qui est aussi dans des établissements privés. Donc ça veut dire que la main d'œuvre médicale qui normalement doit être 100% publique se partage en deux. Donc en termes de nombre de personnes qui travaillent à temps plein dans les hôpitaux, elle se réduit d'autant plus.
Ouais. Christelle, peut-être toute dernière réaction, on arrive vraiment au terme de cette émission et je voudrais donner la parole à Christelle Fatten en dessous en guise de conclusion, je vous en prie.
En guise de conclusion, c'est des questions d'inégalité de santé, évidemment, de comment repenser au niveau mondial. Repenser au niveau mondial ces circulations-là, c'est essayer de rétablir un équilibre, mais le mouvement de privatisation, l'impact aujourd'hui, en fait, du néolibéralisme, hein, de toutes les pratiques néolibérales de marchandisation de la santé, ben, se retrouve en fait renforcé dans le cadre de ces circulations là et c'est dommageable. C'est ce que vous remarquez avec les retours qui ne sont pas possibles et justement le fait que le développement du secteur privé contribue à un déplacement des personnels vers ce secteur là au détriment des populations locales et donc de leur accès aux soins.
Let go of all the things you wanted to know and all the faces you wanted to show. There's nothing more than what you are and where you go, nothing more than what you see and how you feel. It doesn't make sense, it doesn't go away. Did you feel anything today? How do you explain all the sleepless nights? How do you explain all the fears you've got?
Merci beaucoup à Virginie Schall qui est avec nous à l'instant par téléphone. Un grand merci à vous, Christelle Fifaten, en dessous de nous avoir accompagnés ce matin.
C'était un plaisir.
Plaisir partagé. Grand merci également à Yasser Moulan qui était avec nous en duplex de Saint-Denis de la Réunion. Et je remercie chaleureusement les techniciens de RFO qui ont permis de faire cette liaison, qui se sont beaucoup donnés pour que ça soit possible. Donc je les remercie très chaleureusement. 11h, presque 53 minutes, leur pendant de retrouver Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors pendant longtemps, très longtemps, on s'est demandé comment l'auteur de Pour une juste cause pouvait être aussi celui de Vie et destin.
Et oui, pourtant, Vassili Grossman, leur auteur, avait conçu cette œuvre comme une dilogie. Or, le premier des deux romans centrés sur la bataille de Stalingrad ne s'égare guère de la légende soviétique officielle du temps. Si Staline n'y apparaît pas en personne, ce sont néanmoins ses initiatives qui sauvent la situation quand tout paraît perdu. C'est le « Staline ex machina » écrit Gary Saul Morson dans la New York Review of Books. Vie et destin constituent au contraire l'un des actes d'accusation les plus implacables contre le régime stalinien jamais écrit par un écrivain russe. Qui d'autre, alors, en URSS, aurait osé la fameuse comparaison du chapitre 14 de la deuxième partie entre les deux régimes en guerre totale? Grossman met en scène une discussion entre un officier SS et un vieux responsable bolchévique, son prisonnier. Et il montre l'extraordinaire parenté idéologique des deux systèmes, un tabou à l'époque et qui le demeure dans certains milieux. Quand nous nous regardons, nous ne regardons pas seulement un visage haï, nous nous regardons dans un miroir, lance le SS au bolchévique. Là réside la tragédie de notre époque. Se peut-il que vous ne nous reconnaissiez pas, que vous ne vous reconnaissiez pas en nous? Le monde n'est-il pas, pour vous comme pour nous, volonté? Y a-t-il quelque chose qui puisse nous faire hésiter ou vous arrêter? Réfléchissez. Qui se trouve dans nos camps en temps de paix? Les ennemis du parti? Les ennemis du peuple? C'est une espèce que vous connaissez. Ce sont ceux qu'on trouve également dans vos camps. Il n'y a pas de gouffre entre nous. Nous ne sommes que des formes différentes d'une même essence, l'État-parti. Nous aussi, nous appelons à l'unité, à l'effort national. Nous aussi, nous disons que le parti exprime les aspirations de l'ouvrier allemand. Le socialisme dans un seul pays est l'expression suprême du nationalisme. Fin de citation. Mais la réflexion de Vassili Grossman va bien au-delà de ces ressemblances entre les deux grandes idéologies totalitaires du XXe siècle. Il est l'un des premiers à dénoncer l'aspect proprement génocidaire de la terreur bolchevique. Des peuples entiers considérés comme ennemis par nature, déportés en masse dans les profondeurs de l'Asie centrale où l'espérance de vie était faible. L'assassinat par la famine délibérément provoqué de millions de paysans ukrainiens.
Brice, peut-être une différence, l'antisémitisme?
On l'a un peu oublié aujourd'hui, mais le régime stalinien ne fut pas en reste. Lisse toujours le SS. Aujourd'hui, vous êtes effrayé par notre haine du judaïsme, mais il se peut que demain, vous la repreniez à votre compte. Et Grossman savait de quoi il parlait. Lorsque l'Allemagne nazie attaqua l'URSS en juin 41, Staline suscita dans ce pays un comité juif antifasciste destiné à mobiliser des soutiens aux États-Unis. Grossman et Ilya Ehrenburg reçurent la mission de recenser les atrocités commises par les nazis contre les juifs d'URSS. Et Grossman en savait long, lui qui en tant que correspondant de guerre a été l'un des premiers témoins à pénétrer à l'intérieur du camp d'extermination de Treblinka. Son témoignage, qui figure dans le recueil « Carnet de guerre », a été utilisé lors du procès de Nuremberg. Mais le livre noir sur l'extermination scélérate des Juifs ne fut jamais publié en URSS. La ligne politique avait changé. En décembre 52, Staline déclara devant le présidium du Parti communiste du RSS « Tout Juif est un nationaliste et un agent de l'espionnage américain ». Et tous les dirigeants du comité juif antifasciste furent exécutés. Comment Vassili Grossman a-t-il pu être assez naïf pour croire que son chef-d'œuvre, donc « Vie et destin », qui passe pour être l'équivalent de « Guerre et paix » de Tolstoï, avait la moindre chance d'être publié? Grâce à la nouvelle biographie que vient de lui consacrer Alexandra Popov, on sait à présent que son roman sur Stalingrad n'a été publié dans la revue Novi Mir en 1952 qu'au prix de multiples coupes, censures, réécritures. Une nouvelle version comportant toutes ces variantes vient de paraître en anglais sous le titre qui a été voulu par Grossman lui-même, Stalingrad. Quant à Vie et destin, son auteur en acheva la rédaction en 1959. Staline était donc mort, Khrouchtchev avait promis le dégel. Grossman envoyant son manuscrit au comité de rédaction de la revue Znamia, effrayé, ses membres envoyèrent aussitôt le paquet au KGB. Deux officiers se présentèrent chez Grossman en février 61 pour arrêter le manuscrit. Le communisme se libéralisait, on n'envoyait plus les auteurs dans les camps de la mort, on se contentait de les interdire de publication. Grossman écrivit une longue lettre à Khrouchtchev lui demandant de libérer son livre. Souslov, l'idéologue en chef du PC soviétique de l'époque, le convoqua. « Un tel livre ne pourrait pas paraître avant 100 ou 200 ans, lui dit-il. » Pour notre chance, Grossman avait confié une copie de son manuscrit à un ami. « Vie et destin » a été publié en 1980 en Occident, Le Monde Libre. C'est un des plus grands livres publiés au XXe siècle.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture. On vous retrouve demain dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.